Bonsoir, comment allez-vous? Bonne année, bien sûr. Voici une histoire. Un jour que le poète, prix Nobel de littérature Frédéric Mistral, marchait pour rentrer chez lui, un chien noir au poil ras, pas très gros, vient à sa rencontre et lui fait des tours de cirque. Cabriole avant, cabriole arrière, double salto, etc. Malgré ses numéros spectaculaires, Mistral chasse le chien qui revient plusieurs fois. Plusieurs fois, ce chien sera donc repoussé. Pourtant, il suivra Mistral jusque chez lui. Ces deux-là ne se quitteront plus. Mistral l'appellera « Pan perdu ». Le poète pensait que Pan perdu comprenait le langage humain. Car un jour où il lui disait « Pan perdu, il faudrait songer à ta descendance, j'aimerais bien garder une trace de toi ». Pan perdu est parti aussi sec comme une flèche pour revenir un quart d'heure plus tard avec une chienne suitée d'une ribambelle de chiots. Mistral en adoptera un. Le poète était tellement attaché à Pan perdu qu'il a commandé que la tête du chien soit sculptée sur son monument funéraire, ce qui fut fait. Quelque temps après avoir recueilli cette histoire, son auteur, Jules Bois, se rend aux États-Unis à Cody City. Il va au musée de Buffalo Bill et remarque, en voyant le portrait de l'homme de cirque, qu'il ressemble trait pour trait à Frédéric Mistral et qu'il porte le même chapeau à large bord. En outre, le vrai prénom de Buffalo Bill est également Frédéric, Fred Cordy. Ça l'intrigue tellement qu'il se renseigne. Buffalo Bill est venu avec son énorme cirque à Paris pour l'exposition universelle de 1889. Puis il a fait une tournée dans le sud de la France. Et là, à Tarascon, il a perdu son chien de cirque.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir pourquoi les animaux ne parlent pas. Au revoir.
Écoute, bonjour Margot. Les animaux ne parlent pas, encore faudrait-il être d'accord sur ce que veut dire parler ou pas parler. Les animaux, c'est vrai, ne font pas souvent des mots comme toi et moi, ne font pas des phrases, encore que certains peuvent répéter des phrases qu'ils ont entendues. Mais en fait, parler n'est pas la seule façon de communiquer. Quand on parle, c'est pour se dire quelque chose, c'est pour échanger quelque chose. Et si tu fais bien attention aux animaux, pense que parfois, ils ont des comportements, des attitudes ou des bruits qui permettent de savoir s'ils sont contents, pas contents, si on peut les caresser, s'il faut mieux s'écarter, s'ils sont très heureux ou si pas du tout, là il faut vraiment s'en aller à toute vitesse. Alors en fait, pour parler, pour faire des mots, pour faire des phrases, il faut deux choses. Il faut l'organe vocal qui permet de faire ces bruits, et puis il faut le cerveau qui marche avec, qui est dans l'ordinateur, tu as le clavier, l'écran, et puis la mémoire centrale si on prend des images un peu trop modernes. Mais on a besoin de cette partie de réflexion pour faire marcher de façon cohérente la voix. Sinon, on dirait des mots qui n'auraient aucun sens, des phrases sans verbe, sans sujet, ça serait horrible. Donc les animaux n'ont pas, malheureusement, ou peut-être je sais pas si c'est heureux ou pas d'ailleurs, des cordes vocales comme les nôtres, et donc ne peuvent pas faire des sons articulés comme les nôtres.
N'ont pas d'émetteurs.
Voilà. Mais ils ont certainement des idées qui leur passent dans la tête, et ils peuvent les exprimer, mais ils vont utiliser des attitudes. Si un chien aboie méchamment, tu n'iras pas à le caresser. Un éléphant qui barille en Afrique avec les oreilles qui bougent, qui commence à te regarder droit dans les yeux, tu recules et tu as raison. Et on comprend très bien ce que ça veut dire. Et quand les pigeons font la roue devant leur femelle, la femelle comprend de quoi il s'agit. Donc les animaux, sans forcément parler, arrive à communiquer, et la communication, c'est quelque chose de fondamental dans le monde animal. On en parle beaucoup en ce moment entre hommes, parce que parfois on se comprend mal et c'est toujours un petit peu dommage. Mais depuis toujours, les animaux, même les animaux les plus simples, comme les fourmis qui sont déjà finalement, d'ailleurs finalement assez compliqués, communiquent par voie chimique, par voie olfactive, qui permettent aux animaux de comprendre des messages et de s'adapter à des situations et même de réagir par rapport à des situations nouvelles.
Le docteur François Moutou est vétérinaire et vous trouverez les références de certains, il y en a beaucoup, de ses livres sur le site des Petits Bateaux. Vous connaissez le principe des Petits Bateaux, des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Louison, j'ai 10 ans, je suis en CM1. Je vais vous poser une question. Y avait-il de l'électricité il y a 200 ans? Merci.
Bonjour Louison. Agnès Beauvais, documentariste, auteur de Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain que vous avez signé à Agnès Beauvais-Pavie et qui est édité chez François Bourin et Arte Éditions. Y avait-il de l'électricité il y a 200 ans, se demande Louison?
Alors, L'électricité, c'est un phénomène, on va dire, naturel, hein. Ça existe dans la nature. Et il y a 200 ans, on s'intéressait beaucoup, beaucoup à l'électricité. En fait, on s'intéressait à tous les phénomènes naturels, on s'intéressait à la science. Donc, il y a 200 ans, dans les salons, on faisait plein d'expériences. Et il y avait des gens qui faisaient des expériences d'électricité. Par exemple, sur l'électricité statique, qui montrait effectivement que l'électricité pouvait attraper
C'est la règle frottée qui attrape les morceaux de papier.
Exactement. D'accord. On faisait ce type d'expérience qui émerveillait leurs spectateurs. Et donc, il y a 200 ans, il y avait effectivement des chercheurs, notamment Volta, qui va créer la première pile, hein, qui va permettre de stocker l'électricité, de la réutiliser pour des nouvelles expériences. Hein. C'est en 1799. Hein. Et il y a Galvani qui va faire cette expérience où il envoie une décharge dans les muscles d'une grenouille et puis il voit que les muscles se contractent. Alors ceci dit, on n'avait pas l'électricité comme on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un interrupteur et hop, on a l'électricité, la lumière s'allume, on peut brancher sa télévision, son ordinateur. Non, c'était effectivement pas comme ça. À cette époque-là, on s'éclairait avec des lanternes à huile dans les intérieurs ou sinon des bougies de cire pour les aristocrates et les gens qui avaient vraiment les moyens, et sinon des bougies de suif hein, dans les petites maisons chez les gens qui avaient un peu moins de moyens.
Ça coûtait moins cher.
Le suif coûtait moins cher et était plus facile à trouver parce que le suif, il était fabriqué à partir de la graisse animale. Tout était recyclé, en fait. On était vraiment dans une économie où on recyclait tout.
Et est-ce qu'on peut dater à peu près le premier intérieur éclairé à l'électricité ?
Vraiment, l'électricité, on peut dire que c'est 1881, c'est l'année de la première exposition internationale d'électricité. Donc, c'est là où on va faire les premières démonstrations. C'était à Paris, c'était le premier des grands salons internationaux d'électricité, où justement, il y a Edison qui vient présenter sa lampe, mais il n'est pas tout seul, il y a énormément de chercheurs. Donc, tous les chercheurs se réunissent, présentent leurs objets au grand public. Et il y a aussi des salons donc qui sont justement un peu comme on ferait aujourd'hui, installés, décorés, pour faire comme si c'était l'intérieur de maison. Donc c'est vraiment 1880. Et je dirais que les premières maisons peut-être à s'éclairer ou à s'équiper d'électricité, c'est pas tellement dans les villes, c'est plutôt à la campagne. Et c'est les gens qui sont proches d'une rivière ou d'un ruisseau qui vont mettre des turbines dans une rivière, produire leur propre électricité et éclairer leur maison. À cette époque-là, on croyait vraiment que l'électricité allait permettre de conserver tous les ateliers de fabrication dans les campagnes.
La première fonction de l'électricité, c'était la lumière ou c'était l'énergie pour les machines ou encore autre chose ?
Ça a toujours marché ensemble. Hein. Il y avait ce qu'on appelle la force motrice et la lumière. Pour, on va dire, le grand public, ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est la lumière. C'était ça qui était le plus spectaculaire.
Agnès Beauvais-Pavie a écrit « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain ». C'est passionnant. Édité chez François Bouvin et Arte Édition 2018.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Soit clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi, on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéf. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Yeah. Aime-moi, doudou. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. Tu me mens beaucoup. C'est soir venu, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. C'est soir venu, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre.
à genoux, piste. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. Je barre tous les dalles. Maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la pète, pète, pète. Je crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise.
C'était la jeune malienne Aya Nakamura. Et la chanson s'appelle tout simplement Doudou.
Les petits bateaux sur France Inter.
Eh oui, la mer. Suivez-vous le Vendée Globe. Oh, mais c'est passionnant. Ça fait peur et ça fait rêver en même temps.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 6 ans. Et je voudrais savoir pourquoi la mer fait des vagues. Merci, au revoir.
Bonsoir Anna et merci pour ta question. Alors, nous vous avons demandé de répondre à Anna, Patrick Gessdorfer, parce que vous êtes océanographe, parce que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez eu des élèves un peu plus âgés qu'Anna, puisque vous étiez professeur à l'école navale. Et vous venez d'écrire « La mer et les océans » chez Ellipse. Alors, pourquoi la mer fait des vagues ?
Anna, si tu remplis une bassine d'eau, si tu souffles dessus, il va y avoir un mouvement qui va être créé, des ondulations, ce sont des vagues. Eh bien, en mer, c'est la même chose. Lorsque le vent souffle, il transfère son énergie en frottant sur la surface de la mer. Et cette énergie fait naître une agitation qu'on appelle les vagues. Elles se propagent dans une direction donnée, généralement dans celle où souffle le vent. Cela dit, il faut remarquer que c'est uniquement le mouvement qui se déplace. L'eau de mer reste sur place. Elle oscille de haut en bas au fur et à mesure. Mais le mouvement se déplace.
Parce que quand on regarde un surfeur, par exemple, Patrick Gessdorfer, on a l'impression qu'il avance. Alors, je sais bien qu'il ne fait pas 10 km, mais quand même, il avance sur la vague.
Parce que le surfeur travaille dans une configuration de vagues très particulière sur des vagues déferlantes.
Ah oui, qui sont les vagues qui arrivent sur la Terre.
Oui, c'est à ce moment-là, je voulais en dire un mot, c'est quand le fond remonte, les vagues déferlent, ça provoque les rouleaux. Ils sont très amusants quand ils sont petits, qui font quelques centimètres, voire un petit mètre. Mais quand ils sont beaucoup plus importants, d'abord, ils sont très dangereux, y compris en haute mer pour les navires et aussi pour les gens qui sont sur les plages.
Il peut y avoir des rouleaux en haute mer.
C'est que quand le vent souffle très fort, les vagues se cabrent. Et donc, à ce moment-là, la crête des vagues avance tellement vite qu'elle devient en déséquilibre par rapport à la vague. Et donc, il peut y avoir un déferlement. La hauteur des vagues les plus courantes, c'est 6-7 mètres. Mais dans l'Atlantique, on rencontre des vagues qui font 15 à 20 mètres. Ah, alors, il faut dire qu'une vague de 15 mètres, ça correspond à un immeuble parisien de 5 étages. Mais il y a des vagues beaucoup plus importantes. Il y a des vagues qui font une vingtaine de mètres de hauteur. C'est notamment, on peut le rencontrer en Atlantique Nord exceptionnellement. Mais il y en a aussi dans les mers australes, l'Antarctique, qui fait le tour du continent antarctique. Là, on a couramment des vagues d'une vingtaine de mètres de hauteur. Cela dit, elles sont très longues, donc quelquefois, si elles sont rapprochées les unes des autres, c'est très dangereux. Si elles sont plus longues, c'est moins dangereux. Mais enfin, ces deux très grosses vagues existent.
Les marins sont courageux quand même. Hein
oui. Il y a un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle la houle. Ce sont des vagues régulières, en forme de rouleaux, qui s'avancent les unes derrière les autres, même en l'absence de vent. La houle, ça signifie qu'il y a eu du mauvais temps, de la tempête au large, même quelquefois à très grande distance, et ces vagues, peu à peu, se propagent, même loin de la zone où a soufflé le vent. Quelquefois, elle est très grosse, hein, ça peut être très dangereux, la houle aussi. Hein. C'est un phénomène compliqué, il y a des équations compliquées.
Oui, parce que parfois, etc. On voit des vagues dans un sens, et puis on ne comprend pas très bien, tout d'un coup, il y en a dans un autre sens.
Alors là où souffle le vent, ce qu'on appelle la mer du vent, les vagues vont majoritairement dans le même sens que celui où souffle le vent, mais il y en a aussi qui vont dans d'autres sens. C'est ce qu'on appelle la mer du vent, qui est une mer hachée, un peu désordonnée, effectivement. Contrairement à la houle qui est bien régulière, qui va dans une seule direction.
Patrick Gessdorfer a écrit, c'est un beau titre, « Histoire de l'océanographie de la surface aux abysses », édité chez Nouveau Monde Éditions. Nous évoquions à propos de vagues le Cap Horn. Ils sont en train de le passer. Nous évoquions à propos de vagues le Vendée Globe. Ils sont en train de passer le Cap Horn. Yannick Bestaven est numéro 1, il est premier et il est passé très au large. Alors que le deuxième, Charlie Dalin, est passé au ras du Cap Horn. C'est amusant, hein, parce que ce sont deux politiques différents. Les troisième et quatrième n'ont toujours pas passé le Cap Horn. Mais c'est sûr, il y aura des vagues.
Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment les coquillages se reproduisent. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Léna. Laurent Chauveau, il y a des coquillages sur la couverture de votre livre, des coquilles Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, c'est le titre de ce livre aux éditions Équateur. Des coquilles Saint-Jacques, on en trouve dans le monde entier, dites-vous. Et comment les coquilles se reproduisent, demande Léna.
Bonjour Léna. Cette question-là est, un, pertinente et deux, extrêmement intéressante. Et dans le cas des coquilles Saint-Jacques, il y a un phénomène assez intéressant, qui est lié au fait que cet animal est, pour la coquille Saint-Jacques européenne, celle que les Français mangent à Noël, elle est hermaphrodite. Et donc elle est capable de produire simultanément dans ses testicules des spermatozoïdes et des ovocytes dans son ovaire. Alors on sait ça parce que quand on cuisine une coquille Saint-Jacques, ce qu'on appelle le corail est en fait la partie orange et la partie femelle de cette coquille Saint-Jacques et la partie blanche, la partie mâle de cette coquille Saint-Jacques. On peut essayer d'imaginer que maintenant on est en rade de Brest, on vient de passer l'hiver, les gonades de ces coquilles Saint-Jacques.
Qu'est-ce que c'est les gonades?
À la fois soit les ovaires, c'est le mot générique pour la partie reproductive d'un animal. Soit les ovaires, soit les testicules. Donc, on imagine que ce corail est fonctionnel et on va avoir, au cours du mois de mai, un animal qui va évacuer ses gamètes, les spermatozoïdes et les ovocytes, pour que la fécondation ait lieu dans la colonne d'eau. Donc, des spermatozoïdes rencontrent des ovocytes, naît un œuf, cet œuf se développe et trois semaines, dont 21 jours et un mois plus tard, cette larve de coquille Saint-Jacques qui s'est développée dans l'eau se métamorphose brutalement et va revenir sous la forme d'une mini coquille Saint-Jacques posée au fond de la mer et va commencer cette vie posée au fond, dite benthique. Donc voilà, un animal qui a besoin, au stade larvaire, de se développer dans l'eau et au stade juvénile et adulte, de se développer au fond de la mer. Et c'est un très bon exemple d'un cycle vital commun, voire extrêmement commun sur nos côtes. Plein d'invertébrés ont cette méthode, laissent leurs spermatozoïdes et leurs ovocytes dans l'eau. Et avec un hasard et des mortalités complètement délirantes, sort de ces aléas une reproduction finalement assez efficace. Les coquilles Saint-Jacques se reproduisent facilement dans les écosystèmes bretons et le long des côtes de la Manche en France.
Mais alors, Laurent Chauveau, si une même coquille Saint-Jacques lâche des ovules et des spermatozoïdes, ce ne sont pas forcément les ovules et les spermatozoïdes de cette même coquille qui vont se rencontrer. Si c'est dans l'eau, ils peuvent
rencontrer. C'est même pas possible du tout, puisque, alors là, vous allez voir, le mot est assez joli, c'est un animal protandre, ça veut dire qu'il est d'abord mâle, alors qu'il est capable d'avoir les deux productions simultanées, mais il va avoir tendance à libérer d'abord les spermatozoïdes, d'accord, et la partie mâle, puis la partie femelle, ce qui fait qu'à l'arrivée, l'auto-fécondation n'est pas possible.
Et dernière chose, quand vous dites une larve de coquille Saint-Jacques, ça ressemble à quoi? C'est grand comment? C'est...
En fait, j'ai fait un raccourci pas possible parce qu'il y a plusieurs formes de larves qui se succèdent pendant ces trois semaines, un mois. On passe par une petite bestiole qui va faire une vingtaine ou une trentaine de micromètres et qui va ressembler vraiment à un D majuscule. Bon, ça va s'appeler une larve D, puis va apparaître des poils et la naissance des tentacules de la barbe de ces coquilles Saint-Jacques adultes apparaissent et on a une larve dite véligère. Elle a une petite couronne de poils qui lui permettent de nager. Puis, une nouvelle métamorphose, on arrive à un animal qui commence à avoir un muscle un peu puissant, il commence à avoir une organisation qui ressemble à l'adulte, des branchies, et tout, l'organisation interne est quasiment aboutie, et finalement, on a cette post-larve qui ressemble à une coquille Saint-Jacques, qui est une vraie métamorphose, comme une chenille se transforme en papillon brutalement. Tout ça entre 21 jours et un mois.
On ne se doute pas quand on cuisine une coquille Saint-Jacques qu'elle est capable de tant de performances. À propos de performances, voici un artiste, un chanteur, un musicien, capable de jouer d'une vingtaine d'instruments qui a vendu entre 60 et 80 millions de disques dans le monde. Il est mort en 2016, c'était un prince.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter Les Petits Bateaux. Bien sûr, vous avez reçu des jeux, les enfants, pendant les vacances. En tout cas, je vous le souhaite.
Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 15 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les enfants jouent. Merci.
Cécile, pourquoi les enfants jouent? Ta question a l'air légère et je trouve que l'intonation de ta voix est assez grave. C'est peut-être pour ça que nous avons proposé ta question, Cécile, au docteur Michael Larard, pédopsychiatre.
Je trouve que c'est une magnifique question. Et je suis d'accord, jouer c'est sérieux. Et pour les enfants, jouer ce n'est pas que du plaisir. Pourquoi est-ce que les enfants jouent? Pour plein de raisons très importantes. Ils jouent tout d'abord parce que c'est leur façon de communiquer avec le monde et de découvrir le monde. L'enfant fait des expériences, l'enfant prend du plaisir, donc il joue. Et c'est en jouant qu'il découvre les choses et qu'il fait des progrès. C'est en jouant avec les boîtes de la maison, avec les prises, avec le tapis d'éveil, avec les nerfs de papa et maman. C'est en jouant qu'il va se développer sur le plan intellectuel et sur le plan psychomoteur. Il y a des jeux qui sont carrément répertoriés par les pédopsychiatres comme des étapes quasi obligatoires pour le développement psychique. Les jeux fonctionnel, faire rouler sa voiture et comprendre qu'une voiture ça roule, les jeux d'imitation, je donne le café à maman, je fais semblant, on fait semblant de le boire, c'est des jeux qui me font grandir et qui me mettent en relation sympathique, en relation non bébé, non archaïque. Et puis les jeux symboliques, c'est les jeux par exemple avec les Playmobil, où on invente des histoires. Ben, je gonfle mon imaginaire, je prouve que mon invention mentale peut venir à mon secours, soit pour me distraire, soit pour me sortir de la peine quand c'est le cas. Et ça me permet d'augmenter ma capacité symbolique. Et la capacité symbolique, par exemple, on la retrouve dans les mathématiques. Un enfant qui a du mal à jouer avec les symboles, il peut à un moment être limité dans sa capacité à être bon en maths, parce qu'il faut visualiser, penser, symboliser les choses. Donc le jeu est une affaire très importante et c'est une affaire de bonne santé mentale chez l'enfant. D'ailleurs, on voit quand les enfants sont malades ou hospitalisés, à peine ils vont mieux, et c'est très touchant d'ailleurs, à peine ils vont mieux, qu'ils demandent à descendre du lit pour jouer un petit peu. Et ils nous montrent, les enfants, que cette pulsion de vie est fondamentale. Et je crois que peut-être si la jeune fille qui pose la question a la voix grave, c'est qu'elle sent que quand on grandit, on perd un petit peu cette qualité, on perd un petit peu cette compétence, et je crois qu'il faut s'inspirer des enfants pour être toujours capable de jouer. Et c'est en jouant qu'on va continuer, nous aussi les grands, à grandir et à apprendre des choses.
Est-ce qu'un enfant malheureux joue ?
Moins, ou alors à des jeux plus destructeurs. Par exemple, dans mon cabinet, j'ai beaucoup de jeux symboliques pour qu'ils illustrent leurs conflits. Les enfants qui vont mal, ils vont souvent prendre les animaux sauvages et ne pas pouvoir construire une histoire qui tient avec des relations, avec des personnages, mais l'animal sauvage, il va tout détruire dans la maison et le jeu s'arrête en une minute. Donc, ils jouent, mais c'est plus de la décharge agressive que du jeu.
Merci docteur Michael Lahar. En général, à propos de plaisir, en général, quand quelque chose est agréable, ce n'est pas bon pour la santé. C'est agréable de prendre un bain chaud, de manger du chocolat, de paraisser en plein soleil, de boire du gin, de tremper ses frites dans la mayonnaise, mais les médecins l'interdisent. Eh bien là, j'ai trouvé un truc qui est agréable et souverain pour la santé. La réflexologie plantaire. Je vendrai mes enfants au plus offrant pour un bon massage de pied. Et en plus, ça guérit tout. Les éditions Erol viennent de sortir un guide de massage des pieds, mais aussi des mains et du visage, des oreilles pour se soigner. Attention, aucun de ces massages, aussi délicieux et efficaces soit-il, ne remplace les soins classiques et habituels. Cela dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. En 2021, le grand livre de la réflexologie aux éditions Erol. Cette émission est à podcaster par franceinter.fr à la page des Petits Bateaux. Merci à Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, Stéphane Combe, Nicolas Delmas, Marjorie Devoucoux par ordre alphabétique. Après le flash, vous retrouverez Jérôme Garcin pour le masque et la plume.